Et à 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Les vaccins Pfizer seront-ils livrés comme prévu? Le groupe américain annonce des ralentissements dans ses livraisons vers l'Europe. Une info que dément ce soir la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui livrait les précisions dans ce journal. En France, la campagne de vaccination va en tout cas, elle, s'accélérer, assure le gouvernement. Dès lundi, les plus de 75 ans pourront se présenter dans les centres de vaccination. Et du côté des jeunes, seuls les étudiants de première année vont pouvoir revenir dans les amphis. Une aide financière devrait être débloquée pour l'accompagnement psychologique des jeunes. Nicolas Sarkozy visé par une nouvelle enquête du parquet national financier, le PNF, qui le soupçonne cette fois d'un possible trafic d'influence dans ses lucratives activités de conseil en Russie. Aux Pays-Bas, la démission de tout le gouvernement cet après-midi, un gouvernement embourbé dans un scandale de l'administration fiscale qui avait accusé à tort des milliers de parents de fraude aux allocations familiales. Et en Allemagne, c'est la page Merkel qui va se tourner ce week-end, du moins pour le CDU, qui devra désigner son successeur à la tête du parti. Ce matin, le laboratoire américain Pfizer avait averti d'une baisse probable de ses livraisons de vaccins anti-Covid en Europe. Un retard à compter de la semaine prochaine, le temps d'améliorer ses capacités de production, qui pourrait prendre jusqu'à un mois. Une annonce qui a, semble-t-il, alarmé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a du coup décroché son téléphone et appelé le groupe américain. Et semble-t-il, les nouvelles seraient rassurantes. Bonsoir, Tara Schlegel. Tara Schlegel, notre spécialiste santé. Eh bien, nous reviendrons tout à l'heure. Donc en France, en tous les cas, en attendant ce vaccin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait donc confirmé l'ouverture de 833 centres de vaccination en France qui seront donc accessibles à la réservation. Lundi, les plus de 75 ans et patients souffrant de pathologies à haut risque pourront recevoir une dose de vaccin. Face au risque de propagation de variants du coronavirus, le gouvernement a annoncé hier soir une accélération de sa campagne de vaccination. Au total, 6 400 000 Français sont ciblés par cette phase vaccinale. Alors, pour faire des vaccins, il faut évidemment des doses de vaccins. Donc, ce matin, le laboratoire américain Pfizer avait averti qu'il baisserait ses livraisons de vaccins pour l'Europe. Le retard devait compter à partir de la semaine prochaine. Cette annonce, évidemment, a un peu inquiété. Ursula von der Leyen a décroché son téléphone, a appelé le groupe américain et, semble-t-il, les nouvelles seraient plus rassurantes. Bonsoir Tara Schlegel. Alors cette fois-ci, oui Tara, est-ce que vous en savez un petit peu plus alors sur ces doses de vaccins, vont-elles arriver en Europe en temps et en heure?
Eh bien, je crois que vous l'avez déjà dit, Annabelle. Pfizer a donc confirmé au départ auprès de nos collègues de France Info, sans donner beaucoup de détails, qu'il y aurait un retard, qu'il s'agissait de réorganiser l'usine de Purs en Belgique afin de ensuite produire plus de vaccins. L'inquiétude était d'abord venue de 6 pays de l'Union européenne, Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Lettonie et Suède, qui se sont fendus d'une lettre commune en disant que ces retards étaient insupportables, qu'ils portaient atteinte à la crédibilité du processus de vaccination. Et puis le ministre allemand de la Santé l'a confirmé aussi, parlant d'un retard qui allait durer 3 à 4 semaines et disant donc que Pfizer ne serait pas en mesure de respecter les quantités promises. Enfin, la Norvège est la seule à avoir été un petit peu précise dans ses déclarations, car elle anticipait une baisse des livraisons de vaccins de 18%. Officiellement, donc, aucun chiffre global n'a circulé, mais après cet affolement général, eh bien, la présidente de la Commission européenne a appelé personnellement le directeur général de Pfizer, lequel lui a assuré que toutes les doses garanties pour le premier trimestre à l'Europe seront bien livrées. Néanmoins, l'entreprise confirme toujours un retard, fin janvier, début février. Retard dû à des travaux dans l'usine belge, des modifications qui nécessitent des approbations réglementaires supplémentaires, dit la firme, d'où donc ces fameux retards. Mais Ursula von der Leyen assure que le patron de Pfizer s'est personnellement impliqué pour réduire la portée des retards. Il fallait lui faire passer le message, dit-elle. Elle souligne surtout que ce vaccin est d'abord un immense succès. Les commandes actuelles Pfizer plus Moderna doivent permettre de vacciner 80% des Européens. Tout cela, évidemment, à condition qu'elles soient honorées.
Merci Tara Schlegel, on y voit un petit peu plus clair. En tous les cas, le collectif de 35 citoyens français qui devront suivre la campagne de vaccination sera installé demain. On aura bien besoin d'eux finalement. Le Conseil économique, social et environnemental a finalisé le tirage au sort. Le panel se compose de 18 femmes et 17 hommes. Parmi eux, 17% se sont déclarés hostiles à la vaccination, 45% indécises et 38% favorables. Le groupe travaillera en 3 séquences jusqu'à la fin mars. Le 23 février doit être présenté en assemblée plénière un premier rapport d'étape. Certains d'entre eux se considèrent comme les derniers déconfinés. Les étudiants, pour l'immense majorité d'entre eux, sont coincés chez eux, sans date claire de retour sur les bancs de leur fac. Ce matin, Jean Castex et Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, se sont entretenus par visioconférence avec les présidents d'université et les syndicats étudiants. Des syndicats déçus à la sortie donc de cette réunion. Pour l'instant, seules les premières années vont pouvoir revenir dans les amphis et en demi-groupe pour les salles de cours. Les autres vont devoir encore patienter. Thomas Giraudeau, bonsoir.
Bonsoir Annabelle.
Alors une déception donc pour ces étudiants.
Oui, et ils attendaient surtout un chèque santé mentale. C'était une proposition des syndicats étudiants, notamment de l'UNEF, une subvention pour aller chez un psychologue, un psychothérapeute dans le libéral, mais sans plus de précision à l'heure actuelle. C'est ce qui inquiète Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que il va y avoir un travail qui va être mis en place la semaine prochaine sur la question du chèque santé mentale. Par contre, déjà, on voudrait savoir combien de visites vont être gratuites. Est-ce que tous les étudiants vont réellement y avoir accès? Dans quelle temporalité? Enfin, on a encore beaucoup de questions.
Au ministère de l'Enseignement supérieur, pas plus de détails. Ce sera à discuter dans les prochains jours avec le ministère de la Santé. En attendant, le cabinet de Frédéric Vidal insiste sur les 1600 référents étudiants embauchés dans les CTU pour faire le tour des chambres, veiller à la santé mentale des jeunes. Et sur les 80 psychologues et 60 assistants sociaux de plus dans les facs cette année, c'est une goutte d'eau pour Chloé Lafont, étudiante à Mulhouse.
Nous, on est toujours à un psychologue pour 11 000 étudiants. Au final, je connais beaucoup d'étudiants qui ne tentent même pas en fait, de le contacter parce qu'on se dit on n'y arrivera pas. Quoi.
Et cela pourrait donc se tourner vers la médecine de ville avec ce chèque dont on ne connaît pas encore le montant. Guillaume Gelet, président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, se satisfait de cette mesure d'urgence, mais il faut aussi à plus long terme renforcer encore plus le nombre de professionnels dans les facs.
Pour les consultations d'assistantes sociales, des hausses très marquées, hein, 70%, donc pour l'université de Reims, aux vacances de Noël à peu près.
Et tous ne voient qu'une seule solution pérenne à l'amélioration de la santé mentale des étudiants, la reprise massive des cours en présentiel. Au vu du discours officiel, c'est pas pour tout de suite.
Merci Thomas Giraudeau. La France aurait battu un record de création d'entreprises en 2020 en pleine crise sanitaire et économique. Des chiffres en tout cas révélés par l'INSEE, une hausse de 4% par rapport à 2019, qui était déjà une année record, mais des records malheureusement en trompe-l'œil, Timur Özturk. Ces chiffres ne doivent pas laisser croire que la situation économique de la France est au beau fixe.
Si 840 000 entreprises ont été créées l'année dernière, cela ne reflète pas une bonne santé de l'économie, analyse Xavier Timbaud, le directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Il y a trois quarts de création d'entreprises qui sont liées à tout ce qui est la galaxie des petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. En fait, il y a trois facteurs qui expliquent ce phénomène. D'abord, ça coûte pas très cher de créer une nouvelle entreprise. Ensuite, il y a l'ubérisation qui pousse effectivement à la création de ces entreprises pour avoir un statut d'auto-entrepreneur qui vient se substituer au statut de salarié. Et puis, le troisième élément, et qui est pas négligeable, c'est que souvent, Pôle emploi pousse à la création de ces structures parce que ça permet d'être pris en compte comme recherche active d'emploi.
En revanche, les créations de sociétés plus classiques stagnent en très léger recul à moins 0,2% sur un an. Difficile alors de poser des perspectives pour 2021 sur la base de ces chiffres.
C'est un chiffre qui est très ambigu, les créations d'entreprises, et donc qui n'est pas un indicateur économique très satisfaisant parce que en fait, il a cette caractéristique d'augmenter dans des circonstances où ça va plutôt bien, mais d'augmenter aussi dans des circonstances où ça va plutôt mal.
On y relève tout de même des tendances cohérentes avec le contexte de l'année passée. Les créations d'entreprises de transport, par exemple, connaissent la plus forte progression, portée par les livraisons de colis et de repas pendant les périodes de confinement.
Le réseau Biocoop, les magasins bio très en vogue depuis quelques années, symbole de nourriture saine, seraient-ils pris à leur tour dans la tourmente sociale? C'est l'enquête de la cellule investigation cette semaine. Enquête que vous avez réalisée, Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour.
L'enseigne coopérative de vente de produits bio en vrac connaît ici et là des mouvements de grève.
Oui, il y a par exemple ces biocops du centre de Paris où des salariés dénoncent des sanctions abusives et une surveillance constante via les caméras de sécurité. Mais on retrouve une situation similaire à Strasbourg où 7 salariés dénoncent entre autres choses des formations insuffisantes.
Moi je suis arrivée, en fait c'est donc mes collègues qui étaient là, qui avaient 2 semaines ou 1 semaine d'ancienneté de plus que moi qui ont commencé à me former. Et j'ai commencé à faire du vrac, c'est-à-dire à porter des sacs de 25 kilos de sucre sans vraiment de matériel approprié. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 4 mois, j'ai eu une tendinite.
Alors la direction dément ne pas former son personnel, mais reconnaît que certaines de ces formations sont assurées par des collègues en interne. Ces malaises dont la direction du réseau affirme qu'ils sont des cas isolés sont tout de même révélateurs d'une crise de croissance que traverse Biocop. Il faut dire que le nombre de magasins a pratiquement doublé. En 5 ans, il y en a près de 700 aujourd'hui. Et cette croissance est accompagnée d'un changement de culture. Biocop, par exemple, s'est éloigné des agriculteurs, comme l'explique Claude Gruffat, l'ancien président de Biocop.
Les militants du début qui créaient les magasins, c'était des gens qui étaient beaucoup plus en lien avec l'agriculture que maintenant. Ce qu'on a perdu, c'est des porteurs de projets, des gens qui arrivent avec une vraie connaissance de l'agriculture et d'avoir travaillé dans l'agriculture.
Voilà, autre changement dans la façon de gérer. On a peu à peu standardisé les magasins, comme dans les supermarchés classiques. C'est ce qu'affirme en tout cas Stéphanie, ex-manager d'un Biocop de Mayenne.
On a bouleversé les habitudes des salariés pour que tout soit stéréotypé et surtout que d'un magasin à l'autre, à l'époque il y en avait 3, maintenant il y en a 4 en Mayenne, il fallait que tous les produits qui sont dans un magasin soient présents dans l'autre magasin, tout devait être stéréotypé.
Côté social, la charte sociale de Biocop, assez mince en comparaison avec la charte technique par exemple, préconise à ses gérants de magasins d'engager au SMIC augmenté de 10%. Mais ça n'est pas une obligation et beaucoup de salariés se plaignent d'une évolution salariale beaucoup trop faible.
Mais pourtant, Biocop est une coopérative et donc les salariés ont bien voix au chapitre, non ?
Sur le papier, oui, mais ça n'est pas si simple. D'abord, il faut savoir que les coopératives de consommateurs qu'étaient les magasins Biocop à l'origine ont petit à petit cédé la place au SARL. Ensuite, pour influer sur les décisions stratégiques du réseau, notamment salariales, il faut pouvoir participer au congrès des Biocop qui a lieu une fois tous les 2 ans, et pour cela, il faut être informé, se dégager du temps. Écoutez Tad Demir, auteur d'un master de recherche sur Biocop.
Sachant qu'il y a dans le réseau plus de salariés qu'il y a de gérants, on pourrait s'attendre à ce statut soit plutôt généreux, on va dire, pour les salariés. Alors qu'en fait, il n'en est rien, parce que pour participer au congrès, il faut que vous posiez des jours de congé. Et il faut que ce jour de congé soit accepté par votre gérant. C'est-à-dire que votre gérant peut très bien mettre son veto.
Le résultat de cette mutation à grande vitesse, c'est qu'il y a un turnover qui semble s'accélérer chez les salariés et surtout une porosité de plus en plus visible avec la grande distribution. C'est ce que remarque Camille Harel, spécialiste bio au magazine LSA.
Le nouveau directeur général de Biocop est un ancien de chez Carrefour qui est arrivé en octobre dernier. Mais en même temps, le patron de Carrefour Bio est l'ancien directeur général de la Vie Claire.
C'est la raison pour laquelle l'un des magasins fondateurs du réseau à Colmar a décidé récemment de quitter Biocop.
Biocop entre crise de croissance et crise de sens. Une enquête de la cellule d'investigation de Radio France a retrouvé sur notre site internet franceculture.fr. Aux Pays-Bas, c'est tout le gouvernement qui... Petite erreur, Nicolas Sarkozy d'abord, avant de passer aux Pays-Bas et sa démission. Passons d'abord Nicolas Sarkozy sous forte pression judiciaire depuis sa retraite politique. Il est visé par une nouvelle enquête du parquet national financier. Le PNF soupçonne cette fois l'ancien président d'un possible trafic d'influence dans ses lucratives activités de conseil en Russie. Le PNF qui a confirmé l'existence de cette enquête révélée par Mediapart et qui aurait été ouverte à l'été 2020, Florence Sturm.
L'ouverture de l'enquête fait suite à un signalement de Tracfin. Le service de renseignement de Bercy s'interroge en effet sur un virement de 500 000 euros en provenance de Russie que Nicolas Sarkozy a reçu sur son compte de la banque Rothschild début 2020. 500 000 euros qui constituent une part du contrat pluriannuel de 3 millions conclu entre Nicolas Sarkozy en tant qu'avocat et la société d'assurance Réseau Garantia, contrôlée par 2 milliardaires russes d'origine arménienne, les frères Sarkisov. Selon Mediapart, la justice cherche à vérifier si l'ancien chef de l'État agit comme consultant, ce qui serait parfaitement légal, ou s'il se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles. Réseau Garantia est l'une des principales sociétés d'assurance en Russie. En 2007, le français AXA a acquis une participation de plus de 36% dans le groupe. AXA, qui toujours d'après Mediapart, est aussi un important client du cabinet d'avocats Realize, cofondé par Nicolas Sarkozy. À ce stade, son entourage indique que ses activités de conseil sont encadrées dans le strict respect des règles légales et déontologiques, tout en se déclarant parfaitement serein. Une enquête préliminaire peut avoir plusieurs issues, un classement sans suite, un renvoi en correctionnel ou l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Il faut donc attendre désormais le choix opéré par le parquet national financier. Une fois les principales investigations réalisées, le PNF, qui attend par ailleurs, tout comme Nicolas Sarkozy, le jugement du premier procès correctionnel intenté à l'ancien chef de l'État dans l'affaire dite des écoutes, jugement prévu le 1er mars prochain.
Aux Pays-Bas, c'est tout. Le gouvernement et son premier ministre qui ont annoncé aujourd'hui leur démission. Mais la pression était devenue donc intenable depuis le rapport d'enquête parlementaire publié en décembre dernier, un rapport qui avait établi que des fonctionnaires avaient mis fin aux allocations de milliers de familles accusées à tort de fraude. À Bruxelles, on retrouve Pierre Benazé.
Marc Rutte avait bien tenté de maintenir son cabinet à flot depuis un mois que le scandale a éclaté, estimant que les Pays-Bas avaient besoin d'un gouvernement de plein exercice dans la période actuelle. En décembre, un rapport parlementaire avait révélé que des milliers de familles néerlandaises avaient été indûment privées d'allocations familiales. Marc Rutte a donc présenté au roi Guillaume-Alexandre une démission collective, mais le gouvernement reste aux affaires courantes pour faire face à la pandémie et gérer les compensations promises aux parents lésés. Marc Rutte.
L'État de droit doit protéger les citoyens contre une administration toute puissante. Et ici, ça a échoué de manière horrible. Le rapport des parlementaires est très dur, mais il est juste. À tous les niveaux, des fautes ont été faites. Mais la responsabilité politique est au bout du compte celle du cabinet en exercice et nulle part ailleurs. Lorsque tout le système a failli, seul peut être endossé une responsabilité commune.
Pendant 6 ans, de 2013 à 2019, des familles ont été contraintes à restituer les allocations, quelquefois sur des périodes allant jusqu'à plusieurs années, pour des sommes qui ont pu atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour certains des quelques 26 000 parents concernés, ces confiscations administratives ont entraîné des faillites, des dépressions, voire des divorces. 11 000 personnes ont en outre été victimes de profilage ethnique.
Alors que la chancelière Angela Merkel vit les derniers mois de son mandat après 15 années à la tête de l'Allemagne, son parti, l'Union chrétienne démocrate, le CDU, se cherche un dirigeant. Ce sera forcément un homme puisque 3 candidats sont en liste pour le poste. Ce week-end, ils s'affronteront pour obtenir les faveurs des 1000 délégués du parti. Un congrès qui commence donc ce soir en présence de la chancelière Angela Merkel. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Annabelle, bonsoir à toutes et tous.
Alors le gagnant aura donc la lourde tâche de tourner la page Merkel.
Oui, ils veulent tellement la tourner qu'ils n'en parlent même pas. Vous savez, ces candidats ont quand même eu du temps pour faire campagne. Alors ils ne peuvent pas avoir cette excuse. Depuis le mois de février, la sortante est démissionnaire, mais rien, pas un mot. Je vous donne un autre exemple. Il y a eu un débat au mois de décembre entre ces trois-là. Pas une seule fois, le nom de la chancelière n'a été cité. Pas une seule fois, celle qui a tenu ce parti de 2000 à 2018 n'a été l'objet d'une mention. On sait que deux d'entre eux, le favori Friedrich Merz en particulier, mais aussi Norbert Röttgen, le challenger, ne l'apportent pas dans leur cœur, et réciproquement, faut dire qu'elle a été très dure avec eux. En politique, on appellerait même ça un assassinat. Il y a donc un parfum de revanche qui est dans l'air. Et puis, le dernier candidat que je n'ai pas encore cité, Armin Laschet, avec son côté candidat du compromis, aurait finalement le plus à voir avec elle, mais à force qu'on lui répète cela, qu'il incarne la continuité, ben il a préféré prendre ses distances et tendre des perches de façon assez démonstrative à l'aile conservatrice de la CDU. Il est clair désormais que lui aussi souhaite tourner la page d'une époque. Quoi qu'on en pense qu'Angela Merkel aura marqué, ils veulent donc chacun à leur façon tous offrir quelque chose de neuf à leur parti d'abord et pourquoi pas en septembre prochain au pays.
Merci Ludovic Piétenu. Aux États-Unis, 9 jours après les violences au Capitole, les enquêtes sont en cours pour identifier ceux qui ont participé à l'assaut. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Au fil des jours, il apparaît de plus en plus clairement que l'attaque a été très violente. Et d'après les enquêtes, certains militants pro-Trump étaient là pour tuer Franck Madvon.
Sa photo a fait le tour du monde. Un homme torse nu, tatoué, maquillé aux couleurs du drapeau américain, coiffé de cornes de bison. Ce conspirationniste QAnon a pu entrer dans la chambre du Congrès et d'après le document d'accusation le concernant, les manifestants au Capitole avaient bien pour intention de capturer et d'assassiner des élus. Au fil des jours, les vidéos, les témoignages montrent la violence de l'assaut. Un policier, Michael Fanon, s'est retrouvé seul au milieu de la foule déchaînée. Il a parlé à plusieurs médias, dont CNN. They were screaming out.
Il criait « Tuez-le avec son arme ». Là, on se demande juste comment je vais survivre. Et j'ai pensé à abattre des gens pour me défendre. Seulement, si j'avais fait ça, j'en aurais peut-être tué quelques-uns, mais pas tous. Puis ils auraient sans doute pris mon arme et ça leur aurait donné une bonne raison de me tuer s'ils n'avaient pas déjà ça en tête.
Ce policier a finalement pu être extrait de la foule par des collègues. Plus d'une trentaine de personnes ont déjà été arrêtées, par exemple pour avoir jeté un extincteur sur les forces de l'ordre ou frapper un policier, certains militants pro-Trump présentent un réel danger et c'est pourquoi Washington est en état d'urgence, jusqu'à 20 000 soldats déployés d'ici à l'investiture de Joe Biden.
Et on finit avec quelques mots de météo. 8 départements d'Île-de-France sont placés en vigilance orange, neige, verglas. Donc ce samedi, l'Aisne, le Nord, la Somme, l'Oise et le Pas-de-Calais sont également placés en vigilance neige, verglas. La vigilance est en revanche levée dans le Grand Est. Il est 18h passé de 20 minutes. Vite, on retrouve Emmanuel Laurentin pour le temps du débat. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.